ça vous intéresse. Il y a quelques jours, avec mon épouse, on avait le petit-fils et on a... Oh, pendant que je vais raconter mon témoignage, je vais bloquer ça. Sinon, toutes les 30 secondes, il va s'éteindre. Ce qui est assez désagréable. Donc, ce témoignage, il y a quelques jours, avec mon épouse, on avait donc notre petit-fils et c'est un garçon qui aime gambader, courir. Donc, dans la maison, c'est vite... on a vite fait le tour. Donc, pour lui, on a décidé d'aller balader. Puis on est allé à la plage. Vous voyez, donc c'est l'hiver. Bon, allez, on va courir, on va le faire courir. Donc, il va gambader et puis, comme ça, plein poumon. Et puis, également, il va se fatiguer pour pouvoir faire la sieste après. Et puis, on arrive, on pose la voiture, on va pas trop loin parce qu'on a vu que c'était certaines personnes s'étaient déjà embourbées. Donc, ou ensablées plutôt, hein, ensablées. Et... on a décidé de rester juste au bord. Enfin, on a quitté le goudronné. Tac, on s'est mis sur le bord, là. Voilà. Et puis, je vois arriver une dame vers moi. Elle me dit, monsieur, monsieur, vous pouvez pas venir nous aider. On s'est ensablé là-bas, la voiture. J'ai dit, mais vous êtes où? Je regarde. C'est vrai qu'elle était tout au bout. Et puis, je dis, bon, ben, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on a de... Le sable, il touche sous la voiture. Donc, c'était vraiment complet, quoi. Bon, ok, bah, écoutez, j'arrive, je vais voir ce que je peux faire. Donc, on s'habille, nous, parce qu'il y avait un vent, je ne vous dis pas. Donc, on sort, et puis on y va tranquillement, on va le long de la mer, en marchant sur le sable dur, comme ça, on a dit, tiens. Et puis, on a avancé jusqu'à eux, puis après, on a bifurqué, et puis on est allé les retrouver. Alors, effectivement, hein, c'était un 4x4 d'une marque japonaise, pas de publicité, mais ils étaient donc plantés, et la voiture et la remorque. Ok? Donc, j'ai un certain savoir avec les pompiers. J'ai fait du 4x4, j'ai fait pas mal de choses. Donc, j'ai dit, alors on va essayer, on va commencer d'abord par faire une chose. Je vais dégonfler vos pneus. Oui, mais comment on va rouler? J'ai dit, après, moi, j'ai ce que vous voulez. Ou alors, à Salengiro, il y a une station, vous pouvez regonfler. Mais il faut dégonfler les pneus pour qu'il y ait plus de prise. Et puis, que ce soit moins rigide, ça épouse. Voyez. Donc, j'ai dit, allez, il faut faire ça. Donc, entre-temps, il a commencé à mettre également certains morceaux de bois qu'il avait récupérés, parce que la remorque, c'était pour récupérer du bois pour le chauffage, pour la cheminée. Et donc, je fais ce que j'avais à faire, quoi. Et puis, j'ai dit, allez, maintenant, on y va. Et puis, on pousse. Il voulait faire prendre le volant à Marie-Paul. Marie-Paul a dit non. Donc, c'est lui qui a pris le volant. Et puis, donc, marche arrière. Il est sorti, j'ai dit allez encore. Hop, il est sorti, après on a ramené sa remorque. Mais la réaction de son épouse, ça a été, c'est vraiment la providence qui vous a envoyé. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire. Et puis j'ai commencé à dire qui j'étais. Eh bien, ça l'a fait réfléchir. Elle me dit, moi ça m'intéresse. Alors, peut-être qu'un jour on va les voir venir, je ne sais pas. Mais moi ça m'intéresse. Et donc, lui, il écoutait aussi. Puis, elle me dit, mais comment vous joindre? J'ai dit, écoutez, voilà, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Je ne sais plus comment on a fait. Elle m'a envoyé son... Je ne sais plus comment on a fait. L'un ou l'autre, on s'est envoyé le téléphone. Voilà. Et puis, donc, j'ai dit, quel nom? Alors, tu te rappelles les noms, les prénoms? Bon, c'est pas grave. Et quand il me donne le nom de famille, j'ai dit, tiens, ça ressemble à... Ça ressemble à un gars que je connais, enfin que j'ai, je ne dis pas connu, j'ai croisé, mais qui est pasteur. Elle me dit, ben oui, me dit lui. Lui prend la parole et il me dit, ben oui. Il me dit, c'est mon cousin. Ah bon? Ben vous savez, sa fille, son fils, pardon, de votre cousin a épousé ma cousine. Et puis donc, on a embrayé sur le salut, sur la foi, sur la marche avec Dieu. Et ça a duré un moment. Tel point qu'ils étaient frigorifiés parce qu'il y avait du vent. Et donc, on s'est séparés comme cela. Après, j'ai gonflé dans ma voiture. J'ai un petit gonfleur dans la voiture. Hein, voyez. Donc, tac, j'ai gonflé sa voiture. Et puis, ils sont repartis comme ça en me disant, ça m'intéresse, on va venir vous voir. Donc, ils ont l'adresse. On prie pour eux. Hein, et puis, un jour, on ne sait pas. Et Dieu, lui qui sait tout. C'est pourquoi, eh bien, il nous a envoyés vers eux et eux vers nous. Amen. Allez, on ouvre la parole de Dieu ensemble. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jean 14, verset 6. On fera deux lectures. Voilà, s'adressant à Thomas, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 1 Jean 5, verset 11. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 11. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans le Fils ou dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Quand Dieu a préparé la terre pour la rendre habitable de ses mains créatrices, il a tiré de la poussière, du sol, les éléments constituants pour le corps humain. Et il avait devant lui maintenant une mécanique merveilleuse, mais inanimée, dans laquelle il va souper seulement un esprit vivant. Amen. Et la Bible dit que l'homme devint alors une âme vivante. Dès le début de la parole de Dieu, nous voyons que la Trinité humaine, l'esprit, l'âme et le corps, est déjà révélée. Amen. Comme créé, je dirais, à la ressemblance du Dieu lui aussi trinitaire, puisqu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. La vie que possédait l'homme était un mélange harmonieux, d'éléments matériels, spirituels, tandis que par le truchement du corps, son âme eh bien, va jouir des bienfaits que Dieu avait répandus à profusion dans la nature, parce que c'est Dieu qui a tout créé et il l'a donné pour l'homme, bien sûr. Puis voilà que par le truchement de son esprit, eh bien, son âme a pu jouir des bienfaits spirituels que Dieu va lui prodiguer sans compter. Amen. Parce que Dieu n'est pas avare en ce qui concerne la bénédiction et les bienfaits. Aussi longtemps que ces deux domaines lui sont accessibles, la vie de l'homme, eh bien, ça va être un état de bonheur parfait, extraordinaire. D'ailleurs, ils étaient au paradis. Hein? C'était formidable. Aussi longtemps que son corps était sous le contrôle de son esprit, la vie a été idéale, harmonieuse, magnifique. Tant que son esprit était en contact et en communion avec le Dieu dans lequel, nous le savons, il n'y a pas une ombre de variation ou de changement, sa vie n'a connu aucune perturbation. C'était zen, c'était parfait, c'était bon. Mais voilà que cet état de grâce n'a pas duré. La Bible nous dit que par la désobéissance, le péché est entré dans le monde. Et voilà que l'homme a été coupé de Dieu, séparé de Dieu, privé de la présence de Dieu. Quelque chose est venu mourir dans l'homme, quelque chose d'autre également est venu naître en lui. Quelque chose de mauvais, bien sûr. D'un seul coup, du jour au lendemain, le domaine spirituel a été fermé. Amen. Difficile, mais c'est la réalité. Il ne recevait plus dans sa vie ce que nous pouvons appeler la puissance de Dieu, les bienfaits de Dieu, la bonté de Dieu. Et donc, il s'est trouvé incapable de maîtriser ce qu'on va bien appeler ses passions, ses pulsions. D'autres choses faisaient irruption dans son corps, des choses mauvaises. Donc, la situation s'était comme renversée. L'enveloppe destinée à obéir est devenue la maîtresse de la situation, hein, le corps, la chair, l'homme. C'est devenu, je dirais, le grand dictateur de sa vie, bien sûr. Et il a imposé ses lois, il a manifesté de nouvelles pulsions, de nouveaux désirs. Et au point que eh bien cette lettre aux Romains, vous savez, ce texte de l'Écriture de Romains chapitre 5, je vais lire le verset 19, mais du verset 15 au verset 25, l'apôtre Paul décrit tristement à quoi ressemble l'humanité. Hein, l'univers, l'universalité de l'homme, bien sûr, elle est comme ça. Alors il dit, je ne fais pas le bien, au verset 19, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. À l'intérieur, je dis, il faut que je fasse le bien, parce que c'est plus correct. Et puis à l'extérieur se manifeste, eh bien la réalité, c'est que l'homme est comme prisonnier, esclave. Il est tenu dans un état pitoyable. Son trésor spirituel, voilà que l'homme l'a perdu. Il est désormais comme une chenille mélancolique qui voit passer un joli papillon. Et ils sont beaux les papillons, une magnifique couleur. Alors lui, le papillon se délecte du nectar des fleurs, tandis que la chenille doit se contenter de feuilles de choux. C'est pas aussi appétissant. Lui, il vole, le papillon, il revirevolte, et voilà que la chenille, elle est rivée au sol. Est-ce que tout est perdu? Non! Nous avons un grand Dieu, un Dieu d'amour. Tout n'est pas perdu pour la chenille, parce que si elle veut retrouver l'espace aérien, elle devra passer par une expérience que la biologie appelle tout simplement la métamorphose. Et nous aussi, Et bien justement, si nous voulons quelque part reconquérir ce qui a été perdu, eh bien il faut qu'il y ait certaines étapes dans notre vie. Amen. Il faut passer par, je dirais, cette autre métamorphose que la Bible appelle la conversion, la nouvelle naissance. Parce que c'est cela. Lorsque dans l'étang, l'œuf de la grenouille va se développer et devient cette drôle de créature grotesque que nous appelons le tétard. Vous n'avez jamais joué avec les tétards? Nous, on a joué dans des mardous, hein, avec les tétards. Lui, il va dépendre entièrement de l'eau pour vivre, hein, parce qu'il ne peut pas vivre hors de l'eau. Et imaginez un petit peu le tétard. Je ne sais pas s'il arrive à réfléchir comme ça, mais imaginez un petit peu quand il voit mère grenouille. Eh oui, mais comment fait-elle? Elle, on s'y voit, mère grenouille sortir, rentrer dans l'eau, etc. Ah, lui, son élément, c'est l'eau, il n'y a que ça. Alors, quand on se retrouve en contact avec des vrais chrétiens, eh bien, on comprend quelque chose. C'est qu'il y a un plus. Je me rappelle de ce jeune homme qui me disait, écoute, je suis bien avec toi, je ne sais pas ce que tu as, mais tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Puis il nous voit avec Marie-Paul et c'est la même chose. Il dit, mais vous êtes un couple et vous n'êtes pas comme les autres. Alors ça m'a permis de lui dire, écoute, je vais t'expliquer ce qu'il y a dans notre vie. Puis j'aimerais te fixer un rendez-vous. Si dimanche, tu n'as rien à faire, eh bien, viens nous retrouver à 15h30, eh bien, avenue du camping à Carpentras. Et là, eh bien, tu comprendras mieux, tu jugeras sur pièce. Et ce jeune homme, il est venu. Il est venu écouter l'évangile. Il m'a dit, je comprends maintenant. Et puis, il s'est comment dire, lié de plus en plus à moi. Et bien sûr, il comprenait, il vivait, voyait qu'on vivait autre chose. Amen. Alors, on sait une chose, c'est que, quelque part, le niveau de vie d'un chrétien, il est plus haut. Pourquoi? Eh bien, parce que les choses qui nous viennent de Dieu, d'abord, elles viennent d'en haut, mais elles sont plus élevées que les choses d'ici-bas. Un chrétien... Et les chrétiens, en général, parlent d'un livre auquel ils font toujours référence. Et je ne sais pas si ça fait pareil pour vous, mais quand j'ai voulu y mettre les premiers temps eh bien, le nez dedans, ouvrir mes yeux et regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, eh bien, c'était du chinois. Hein, je n'ai pas dit l'hébreu, hein, mais du chinois, parce que c'était difficile à comprendre. Eh oui. La raison est simple, et c'est Jésus qui le dit, nous l'avons lu tout à l'heure, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Beaucoup de gens vont s'accommoder de leur petit monde, terre à terre. Bien sûr qu'ils ne débouchent sur rien d'autre que, excusez-moi, mais le cimetière à brève, moyenne ou plus longue échéance, je ne sais pas. Mais quand tout se résume à métro, boulot, disco, bobo, dodo, parce que c'est un peu ça, eh bien, vous savez, la mare, elle devient vite petite. Et pour nous, il y en a vite marre aussi, hein, parce que la réalité est là. On a vite fait le tour. Eh oui. Alors, j'affirme qu'il y a autre chose que le train-train quotidien, que la grisaille du lundi matin, le vague à l'âme, le sentiment de toujours passer à côté de l'essentiel. Il y a autre chose, bien sûr. Hein. Et Jésus, là, je vais le nommer comme cela, tiens, ça ne vous dérange pas, le seul vrai extraterrestre. Hein, Jésus? Eh bien, il est venu de l'étage supérieur, vous voyez, de l'étage au-dessus, de l'autre côté de cette vie, bien sûr. Et lui, eh bien, il a prouvé, par sa façon de vivre, par son enseignement qu'il a laissé, parce qu'il était écouté, entendu et reçu, ses miracles et également beaucoup d'autres choses, que lui, c'était vrai. C'est du concret. Amen. Que ce n'est pas simplement du blablabla, mais quand il dit une chose, la chose se réalise. La Bible nous montre que rester étranger à la vie de Dieu est en plus une dangereuse condition, qu'il vaut mieux eh bien, se mettre en règle le plus tôt possible avec Dieu, parce que la Bible nous dit ceci, Jean 3, 36, « Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Waouh ! Ça, vous ne pouvez pas frémir, la colère de Dieu ? Eh oui. Alors la Bible veut dire par là que la vie telle que les hommes la conçoivent, respirer, se mouvoir, croître, hein, se multiplier, s'amuser, se nourrir, se loger, eh bien, elle dit ça c'est pas la vie, c'est pas vivre, c'est simplement exister. Et oui, simplement exister. Et exister dans ce sens-là, eh bien, c'est vivre avec ce que j'ai souvent appelé, moi, une épée de Damoclès sur la tête. Pédamoclès peut s'abattre du jour au lendemain, hein, en un instant. Parce que la Bible affirme, tant que je suis séparé de Dieu, tant que je n'ai pas reçu le pardon de mes péchés, eh bien, je suis sous une condamnation. Pourquoi ? Eh bien, parce que je pratique le péché, nous l'avons dit au début. Je fais ce que je ne veux pas. Pourtant, j'ai le désir de faire le bien. Alors, cette vie-là, elle porte une étiquette. C'est condamné à périr. Terrible. Combien de millions de gens, jeunes ou moins jeunes, qui, sans avoir connu l'expérience de la conversion, eh bien, disent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Combien de fois, eh bien, des personnes se sont dit, qu'est-ce que je suis venu faire ici-bas dans ce monde ? J'ai rien demandé. Moi, j'ai entendu quantité de fois dans des camps de jeunes, avec des personnes également qui étaient au bout du rouleau, qui disaient, mais qu'est-ce que je fais ici-bas ? Eh oui. Alors, nombreux sont ceux qui, après avoir trop espéré ou trop attendu de la vie, sont en proie de cruelles désillusions, bien sûr. Il faut les toucher du bois à la misère humaine dans certains pays, ou des gens qui vivent dans des bidonvilles, avec l'insalubrité, dans une condition de vie misérable. Moi, je revois ces enfants, là, jouant dans les éboulis, à Abidjan, sur la colline en face. On était sur ce plateau, il y avait cette église catholique, et en face, il y avait des éboulis, les poubelles en bas, et les enfants qui descendaient, vous savez, comme un toboggan, dans ces détritus, dans ces poubelles. Vous voyez, c'est la réalité, elle est là. Hein. Vous savez, ces gens-là, allez, une année de bonheur contre tout ça. Et ils les changent. Amen. Qu'il y ait des millions de malheureux également, que de pauvres riches, hein, c'est Bossuet qui disait cela, que de Dalida, de Romy, de Montmerlan, d'Hemingway, de Marilyn Monroe, et tant d'autres, et qui ont été comblés au-delà de toute mesure, hein, qui aussi auraient volontiers échangé leur vie contre une année de vrai bonheur. Je parle bien du vrai bonheur. Et oui, et qui n'ont finalement trouvé nulle part sinon bien mettant fin à leur jour dans le suicide, bien sûr. Alors tous les jours, ils ont peiné au mât de cocagne de la vie. Vous savez ce que c'est qu'un mât de cocagne, hein? On l'a bien graissé, hein? C'est difficile à monter pour atteindre le but, hein? Ah, ça, c'est les promesses du bonheur. Ah, le flotter très haut. Eh oui, très haut. Quelques très rares concurrents, ils sont arrivés parce qu'ils étaient plus forts, je ne sais pas, hein, plus rusés. Mais quand ils ont cru décrocher le vrai bonheur ou le prix du vrai bonheur, bien sûr, ils se sont aperçus que c'était qu'une farce. Eh oui. La dorure, c'était du toc, du clinquant, du fer blanc. Le bonheur était encore plus haut. Beaucoup plus haut, toujours plus haut. Il était aux cieux. Et Alfred de Musset a écrit ces propos. Ah, pauvre insensé, misérable cervelle, qui de tant de façons avait tout expliqué pour aller jusqu'aux cieux. Et il vous fallait des ailes. Vous aviez le désir, mais la foi vous en manquait. La foi, mes amis, c'est ce qui transforme tout. C'est ce qui change. Oh, pas la foi dans la société d'hier, d'aujourd'hui et de demain, mais dans celui qui a dit, si vous croyez en moi, vous avez la vie. Si vous approchez de moi, je m'approche de vous. Amen. Si vous m'invoquez, moi je vais répondre. Et finalement, ceux qui ont trouvé le bonheur ne l'ont pas trouvé dans une existence faite d'abondance matérielle, mais au contraire, tout simplement dans la perte de cet esprit de conquête, de jouissance des choses terrestres. Voyez ? Eh oui, on se bat pour être au-dessus de tous, au-dessus de la mêlée, pour avoir le premier prix. En fin de compte, qu'est-ce qu'il en reste après ? Jésus nous dit dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 24, « Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. » Et il nous montre par là que pour recevoir la vie, celle qui s'inscrit, vous savez, avec un grand V majuscule, eh bien, il faut lâcher l'autre vie, celle qui justement un jour nous lâchera. Parce que, on le sait, hein, tout homme a une fin un jour. Eh oui. C'est ce genre d'existence qui n'est, je dirais, qu'un leurre, hein, qui nous conduit à notre perte. En tout cas, Saul de Tars, on le sait, on a entendu parler de lui pour la plupart d'entre nous, et il s'avançait un jour sur le chemin de Damas, hein, cette route. Il était menaçant, quelqu'un de sûr de lui, vous savez. Et puis là, il va être terrassé par une lumière aveuglante et par une voix, hein, celle de celui qu'on appelle le prince de la vie, qui lui disait « Saul, Saul !» pourquoi me persécutes-tu ? Et c'est là que la vie de Saul de Tarse va basculer. Lui, justement, qui avait tout misé sur l'acquisition d'avantages, il était recommandable, il était recommandé aussi, bien sûr. Il avait des titres. D'ailleurs, il le rappellera dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 9, et je vous en donne une libre citation. « Moi, circoncis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, c'est-à-dire de pure race, zélé pour la cause, irréprochable quant à la justice. » Mais ces choses, position, honneur, renommée, titre, ami, influence, et j'en passe, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte en comparaison de l'excellence de Jésus-Christ mon Seigneur. Lui, pour lequel j'ai renoncé à tout, et ces choses que je recherchais autrefois, je les regarde maintenant comme de la boue. Amen. Il y a eu quand même une transformation chez cet homme. Il s'est passé quelque chose. Hein, quand je parlais de la chenille et du papillon, ben oui, c'est quand même autre chose. Lui qui respirait la menace et le meurtre, lui qui se faisait remettre des lettres, pour arracher hommes et femmes, les ramener tout simplement en prison. Il s'est passé quelque chose. Dans Luc chapitre 7, versets 35 à 50, ne cherchez pas, c'est l'histoire d'une femme sensuelle, hein, vénale, adepte de l'amour libre, une prostituée. Hein. Elle est venue se mettre aux pieds de Jésus. Cette existence qu'elle menait jusqu'ici, dites-moi, est-ce que c'était vraiment vivre ? Mais regardez un petit peu ce qu'elle va dire plus tard. D'abord, elle va s'agenouiller aux pieds de Jésus, elle va mouiller ses pieds de ses larmes, elle va eh bien les baiser, elle va y répandre du parfum, et puis elle se sépare de son passé. Elle perd volontairement l'argent que lui rapportaient eh bien ses passes. Et là, elle va trouver dans une apparence austère, vous savez, avec Jésus, une abondance de vie, une paix magnifique, extraordinaire, celle de l'âme. Tout ce qui était inconnu pour elle, ce bien-être intérieur, elle l'a trouvé là auprès de Jésus. Amen. Pas ailleurs. Pas auprès de tous ces rendez-vous. Dans Matthieu 9, on trouve un certain Lévi. Il est assis au bureau des impôts. Et là, on peut se dire, mais était-ce vraiment vivre que cette existence, tout entière dominée par la cupidité ? Il y en a qui vivent que pour ça. Hein. Lui, il a passé son temps à tromper. Il est contribuable, parce qu'il avait ce que demandaient les Romains, mais il s'en prenait sa part. Il a brassé des pièces d'argent, il les a entendues tinter, vous savez, c'est dans les coffres. Il a pu discuter âprement en longueur de journée pour des questions de gros sous, vous voyez. C'était sa vie. Et voilà que sans prévenir, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le Sauveur, Jésus, tel un éclair qui sillonne le noir, a illuminé sa vie, son être intérieur, son âme. Amen. L'appel le plus bref de toute la Bible lui adressé. Vous le connaissez l'appel lancé à Lévi, Matthieu ? Suis-moi ! Pas mais des minutes de prédication, lui. Hein. Un seul appel. Suis-moi. Deux mots ont suffi pour que Matthieu, alias Lévi, boucle sa vie passée dans ses coffres, tout ça, il a mis à l'intérieur, il découvre une vie nouvelle, suite à laquelle, eh bien justement, il va être vraiment heureux. Amen. Eh oui. Aucune autre richesse que celle qu'il a reçue dans son cœur n'a pu lui donner l'assurance de la vie éternelle, jouir du vrai bonheur. Dans Jean 3, on trouve un docteur de la loi et les professeurs de religion. Ils viennent trouver Jésus de nuit et il enseignait, je le rappelle, c'est un docteur. Jésus va lui faire le rappel de cela, hein, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Parce que quand il va lui parler de la réalité. Alors, était-ce vraiment vivre que d'enseigner des préceptes, je dirais, aussi froids que moralisateurs ? Eh oui, parce que c'est ce qu'il faisait. Il ne connaissait pas encore la vie. Il connaissait la lettre, mais pas la vie. Et voilà que Jésus lui fait ce cinglant reproche. Vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez vous-même pas de l'un de vos doigts. Et oui, c'est beau de faire la morale. Je crois que c'est par l'exemple qu'on prêche le mieux. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Alors c'est en lui, en particulier à Nicodème, peut-être moins hypocrite que les autres, que Jésus va dire ceci. Nicodème, il te faut naître de nouveau. Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est formidable. Et il te faut, Nicodème, une vie nouvelle. Ah, mais celle-là, elle ne peut venir que de plus haut. Ici-bas, tu ne la trouveras pas. Eh oui. Alors Nicodème a fini lui aussi, je dirais, par déposer eh bien, son enseignement, ses sermons. Tout ça, c'était creux. Donc il l'a déposé au sépulcre du Seigneur. Parce qu'il avait reconnu en lui, tout simplement, le docteur venu de Dieu, le vrai. Amen. Et pour lui, désormais, bien sûr, quelque chose venait de se passer enfin. Sa vie n'était plus la même. Était-ce vivre également que cette existence que je menais, que vous avez pu mener vous aussi, selon ce monde dans lequel nous vivons, avec les plaisirs trompeurs, que la Bible appelle tout simplement des citernes crevassées et qui ne retiennent pas l'eau. Un petit peu cette existence en rase-motte, menacée par, on le sait, l'épée de Damoclès, toujours là, le jugement de Dieu. Moi, je l'ai laissé. Je l'ai laissé tout simplement entre les mains percées de Jésus à la croix. Lui qui a payé justement pour que moi je puisse vivre. Il avait promis. Il a banni à tout jamais de sa mémoire tout ce qui pouvait me condamner. Pourquoi ? Parce que le rencontrant, eh bien, j'ai fait une chose, j'ai dit « Seigneur, pardonne-moi. » J'ai pleuré sur mon péché, j'ai versé les larmes. Larmes parce que je me rendais compte du mal que j'avais fait à Dieu, puis également du mal que je m'étais fait, de l'erreur qui était la mienne. Amen. Et vous savez, pour rien au monde, eh bien, je voudrais reprendre ces choses, revivre comme avant, ne serait-ce qu'une journée, parce que peut-être que pendant cette journée, je pourrais mourir et être perdu. Ça veut dire qu'on ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec son salut. Amen. Alors, cette existence sur laquelle Dieu a déjà passé sa condamnation, une chose, c'est que Jésus eh bien, nous appelle tout simplement à la laisser. Vous voyez ? À la laisser disparaître. Pas permettre qu'elle revienne en surface. Les choses anciennes sont passées. Il faut marcher en nouveauté de vie. Je vois Lévi, Nicodème, Saul de Tarse, eh bien, ont su saisir, au contraire, celle que Dieu leur offrait, celle que Jésus, eh bien, leur offrait. Parce que la vie, dans le plein sens du terme, il ne peut la donner justement que lorsque, eh bien, on a consenti de plein gré à abandonner cette autre vie. Amen. À laisser tomber tout ce qui était de cette vie pitoyable, bien sûr. Et cette vie qu'il nous offre, bien sûr, est tout à fait différente. Hein, aussi bien que eh bien, le tétard devient grenouille, hein, que le papillon également eh bien, est devenu papillon parce qu'il a quitté l'aspect chenille. Hein, il y a eu cette métamorphose. Cette existence, Dieu la communique à tous ceux qui le désirent. Tout à l'heure, je parlais avec un frère qui me disait « Mais j'ai toujours eu soif de Dieu. » Et Dieu m'a envoyé tout simplement un chrétien évangélique. Et il me disait « Mais il aurait pu m'envoyer un témoin de Jéhovah, il aurait pu m'envoyer un bouddhiste. » Peut-être que je réponds, j'ai dit « Non, Dieu te connaissait, il connaissait ton cœur. Il savait que tu avais soif de vérité, soif de vie, soif de pureté. Et il t'a envoyé quelqu'un qui justement le connaissait. » Amen. Alors c'est vrai, si nous sommes sauvés, si nous échappons justement au jugement éternel, c'est parce que Dieu a fait tomber ce jugement sur son Fils. Jésus s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Et cette existence dont eh bien, nous avons été revêtus, cette vie nouvelle, nous savons que si pour nous c'est gratuit, ça ne l'a pas été pour lui. Le salut gratuit pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur. Mais il a fallu que quelqu'un paye. Amen. Il a fallu que quelqu'un donne sa vie en sacrifice. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Cette offre-vie qu'il nous offre en échange, c'est la vie qu'il a sortie de la mort également, où nos péchés l'avaient plongé, bien sûr. C'est cette vie merveilleuse qui a fait jaillir des lèvres de Marie de Magdala. Maître, Rabouni, c'est celle qui a rempli justement les disciples de joie. Vous souvenez-vous du jour où vous avez rencontré le Seigneur Jésus ? Vous êtes revenu tout triste ? Il y a eu un moment de tristesse. Oui, j'ai péché, j'ai réalisé. Ah, oh, ça y est, j'ai compris. Misérable que je suis. Mais ensuite, est-ce qu'il n'y a pas eu une joie ? une joie que vous n'aviez jamais connue, un certain bien-être, où là, il n'y a plus de questions qui se posent. Et là, mais c'est la paix, c'est le repos. Vous savez que quand Marie de Magdala dit « Maître Rabouni », il y en a un qui, lui, ne supportait pas encore cela. C'est Thomas. Thomas, lui, il a fallu quelques jours. C'était tellement grand, grandiose, merveilleux et magnifique que Thomas a mis du temps à comprendre ces choses. Et voyez-vous, cette vie de résurrection de Jésus, eh bien, le devient la possession d'hommes et de femmes, pécheurs, pécheresses, repentants et repentantes. Amen. Et ce qui rend eh bien, une conversion authentique, ce sont les deux phases distinctes et néanmoins eh bien, inséparables qui vont la composer. Premièrement, il y a l'abandon de l'existence passée. C'est la repentance. C'est ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Une tristesse selon Dieu, mais une tristesse dont on ne se repent jamais. Amen. Et deuxième chose, c'est la réception de la vie de Jésus ressuscité. Et ça, il est question de la foi. Amen. Oui, je crois. Je n'ai pas vu Jésus directement de mes yeux, mais je vois le travail qu'il a fait en moi. Et je crois en lui. Amen. Certains voudraient dissocier ces deux éléments. Là, je m'explique. Conversion veut dire demi-tour. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement une halte. Elle n'est pas qu'une confession de foi négative. Oui, je suis pécheur, mécréant que je suis. Mais si je n'accepte pas le marché jusqu'au bout, est-ce que je peux dire que je me suis converti? Certes, il y a eu un stop et parfois même une marche arrière quant au passé, parce que c'était tellement pesant, on ne savait plus comment ça sortir, il fallait bien qu'on fasse demi-tour. Mais je constate une chose, c'est que dans le salut, dans ceux qui passent par la nouvelle naissance, à un moment donné, il y a un go, un avanti, hein, un avant-tout, quant au présent, eh oui. Imaginez-vous Saul de Tarse, arrêté par le Seigneur sur le chemin de Damas, lui disant « Ok Seigneur, d'accord, je capitule. Je te rends mon épée, mes lettres de plein pouvoir. Maintenant, laisse-moi rentrer tranquillement chez mon papa à Tarse. » Est-ce que vous croyez que c'était correct? Imaginerez-vous cet ardent combattant de la foi, écrivant dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, « Vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles et ne terminant pas sa phrase. » C'est-à-dire s'arrêtant là. Or, il y a la suite. Pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est impensable que Paul s'arrête que là. Et vous êtes converti en abandonnant eh bien, les idoles. C'est fini. Non, il dit la suite. Imagineriez-vous également le même apôtre enseignant la doctrine du baptême dans le chapitre 6 eh bien, de l'Épître aux Romains, écrivant « Nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême à la ressemblance de sa mort » sans ajouter la deuxième phrase du baptême, la deuxième phase, hein, afin que, à la ressemblance de sa résurrection, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. C'est formidable. On sait que le baptême biblique, selon le sens étymologique, eh bien, du mot veut dire immerger, plonger, être submergé. Oui. Et c'est ce que faisait Jean-Baptiste, dont il est écrit, dans Jean chapitre 3, verset 23, qu'il baptisait à Énon parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Alors, pour baptiser, il fallait donc qu'il y ait assez d'eau pour y plonger les gens, jusqu'à les immerger. Donc, celui qui se faisait baptiser sous cette forme, là aussi symbolique de choses, il exprimait finalement deux choses. Premièrement, en descendant entièrement dans l'eau, à la ressemblance de Christ descendu dans la mort pour le péché, lui aussi, eh bien, en se convertissant, mourait à son ancienne vie de péché. Alléluia. Mais il y a la deuxième phase. En ressortant de l'eau, eh bien, il exprimait par là qu'à la ressemblance du Christ ressuscité, lui aussi sortait eh bien, du péché pour vivre en nouveauté de vie. Alors gardons à l'esprit cela, ces deux facettes du baptême, la mort d'une part, la résurrection de l'autre, qui, hein, je vous le demande, se faisant baptiser, se risquerait à ce que justement on ne fasse que la moitié du chemin, c'est-à-dire que, ok, on te plonge sous l'eau et on t'empêche de sortir. Qu'est-ce qui se passe au bout de deux minutes? C'est plus que la tasse, hein? C'est la mort. Donc on se prépare à une autre cérémonie, eh bien celle d'un enterrement pur et simple, hein? Donc l'apôtre Paul, pour en revenir à lui, n'a pas seulement laissé sa vie passer sur le chemin de Damas, il a aussi saisi celle que lui offrait le Seigneur. Et il s'en est laissé pénétrer, alléluia, jusqu'à en déborder. C'est pas formidable? Mais oui. Alors c'est ce qu'il dit d'une autre façon dans Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, mais il ne s'arrête pas là, il poursuit. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans mon corps, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Matthieu n'a pas seulement quitté son bureau des recettes, mais il va mettre sa plume à la disposition du Saint-Esprit, qui lui a fait écrire, bien sûr, l'évangile qui porte son nom. Et quand on veut être sauvé, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait le moindre doute. Alléluia. Quand on est visité par l'Esprit de Dieu, quand on se repent, quand on fait la démarche, selon ce que je viens de décrire, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait le moindre doute. Pour cela, eh bien, il faut se soumettre, justement, aux conditions des Écritures. Abandonner notre existence passée par la repentance. Amen. Saisir par la foi celle que Jésus nous offre, cette autre, je dirais, qualité de vie dont lui-même a parlé en disant « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Amen. Alors, si nous voulons qu'un arbre sauvage porte de bons fruits, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper, il faut hanter ou il faut greffer, bien sûr. Eh bien, de même, pour que nos vies portent du fruit qui plaise à Dieu, il faut que Jésus vienne greffer sa vie sur la nôtre. Amen. Ou dans la nôtre. Sans cette greffe que Jésus appelle la nouvelle naissance, les seuls fruits que nous pouvons porter, eh bien, sont des fruits sauvages. Il y a deux reprises, la Bible appelle les œuvres mortes. Ça ne sert à rien. Eh oui. On peut tout essayer pour transformer notre vie. On peut essayer de se discipliner, de faire de l'autodiscipline, nos sentiments, nos pensées. Prendre des bonnes résolutions, désirer vivre justement une vie conforme à l'exemple de Jésus, supplier Dieu également de nous donner des victoires sur nous-mêmes, mais on n'arrivera qu'à produire davantage d'œuvres mortes. Et quant au salut, ce n'est pas comme cela. Alors, combien désir, bien sûr, et il faut le voir comme cela, quand vous regardez un petit peu, une greffe minuscule, elle peut transformer tout simplement la vie d'un grand arbre. Et c'est là qu'il faut réfléchir un petit peu, à penser ce qui nous arrive justement quand la vie d'un si grand sauveur vient tout simplement se greffer sur une vie petite, une petite vie comme la nôtre. Tout prend une autre proportion. Moi j'appelle ça vivre une vie supérieure. Alléluia. Oh, c'est hors norme. Mais le chrétien, il est hors norme. Amen. Je disais tout à l'heure que Jésus, c'est le seul extraterrestre, le vrai. Eh oui. Alors Dieu, l'horticulteur divin, Jésus, c'est la grève divine. Nous, nous sommes des sujets humains à qui il veut implanter la vie éternelle. Il va le faire par le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, justement. Et une vie ainsi greffée, eh bien, ne peut que porter, eh bien, ce que l'Épître appelle, bien sûr, l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, composé de 9 variétés, je le livre comme cela, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi. Qui veut porter ces fruits? Les deux mains. Eh oui! Parce que Dieu consent à mettre la vie de son Fils dans la nôtre. Amen! Afin que justement, nous puissions être greffés. Mais il faut se laisser greffer. Amen. Il faut que la main de l'horticulteur, du divin horticulteur, puisse, eh bien, se poser sur la nôtre et nous greffer à son Fils. Alléluia. Et là, nous portons du fruit qui est digne de Dieu. Alléluia. Jésus, c'est lui la vie. Il faut qu'il vienne et qu'il demeure, qu'il réside. Amen. Pas simplement quand j'y pense, mais que j'ai conscience qu'il est là en permanence. Il est le Seigneur de la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.